9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Les hôpitaux français risquent de devoir faire face à 3 épidémies en même temps cet hiver. Le Covid qui est toujours là, la bronchiolite et la grippe saisonnière qui est en avance. Alors pourront-ils tenir? Ma première invitée est l'infectiologue Anne-Claude Crémieux qui publie « Les citoyens ont le droit de savoir ». Je recevrai ensuite Caroline Pigozzi pour son beau livre sur le Vatican, le vrai, et Marek Alter pour son roman « La Juive de Shanghai » sur un épisode de peu connu de la Seconde Guerre mondiale, le ghetto de Shanghai qui a abrité plusieurs dizaines de milliers de Juifs, des réfugiés d'Europe de l'Est, qui se sont retrouvés à Shanghai sous occupation japonaise.
Europe 1.
Anne-Claude Crémieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, vous êtes membre de l'Académie de médecine, professeur en maladies infectieuses, vous avez été conseillère au ministère de la Santé entre 2003 et 2005, ce qui vous en aviez tiré un livre d'ailleurs en 2009, « Gouverner l'imprévisible ». Au plus fort de la crise du Covid, vous avez fait partie des médecins vers qui les médias se sont le plus volontiers tournés pour poser leurs questions et vous en avez tiré un autre livre, « Les citoyens ont le droit de savoir », qui vient de paraître aux éditions Fayard, au moment même où c'est à une triple épidémie que les hôpitaux français risquent d'être confrontés. Je l'ai dit, hein, le Covid-19, dont les nouveaux cas ont augmenté de 40% en une semaine, l'épidémie de bronchiolite, le taux d'actes médicaux chez les enfants de moins de 2 ans a quasiment doublé en 6 semaines. Et puis il y a l'épidémie de grippe saisonnière qui vient d'être déclarée. Elle est en avance cette année. Alors est-ce que l'hôpital va pouvoir tenir? Tous les lits ne risquent-ils pas d'être monopolisés par ces 3 maladies au détriment de tous les autres maux?
Alors, c'est effectivement une vraie question qui en cache plusieurs. La première, c'est quelle va être l'intensité de ces épidémies. En ce qui concerne l'épidémie de Covid, on a encore des incertitudes. On a une population qui vit depuis un an avec une circulation de variants Omicron. Je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on reste dans cette lignée Omicron. Donc, la population garde un certain niveau d'immunité croisée. Mais néanmoins, comme vous le savez, l'immunité baisse avec le temps et les rappels sont importants. Aujourd'hui, la population se bouscule pas, et en particulier la population à risque, pour faire ces rappels qui permettraient pourtant de récupérer une immunité optimale pour éviter d'être hospitalisé. Donc, quelle va être l'intensité de cette vague Omicron? On ne le sait pas et on a les yeux effectivement rivés sur les patients hospitalisés pour le Covid. Pareil pour la grippe, difficile de prévoir, vous l'avez dit, ça commence. Est-ce qu'il va y avoir entre Omicron et la grippe des interactions nuisibles? Et en particulier, il y a un article qui a dit qu'il pouvait y avoir des co-infections qui seraient plus sévères. Donc là aussi, nous n'avons pas de certitude. On attend de voir, parce que l'année dernière et l'année d'avant, nous n'avons pas connu d'épidémie de grippe pendant les épisodes de vagues de Covid. Et donc, on ne sait pas très bien. Et effectivement, on va voir ce qui va se passer. Et enfin, l'épidémie de bronchiolite, elle continue à augmenter. Elle touche un public assez différent, qui sont les enfants, et c'est déjà la réanimation infantile qui crie au secours. Dans ces difficultés de l'hôpital, il y a à la fois les épidémies, vous l'avez dit, qui arrivent, et probablement dans une population qui a été moins immunisée, parce que les mesures barrières de l'année dernière ont freiné la grippe, et aussi ont freiné la bronchiolite, mais il y a aussi la dégradation des services de soins que l'on connaît, dégradation qui est ancienne mais qui s'est très clairement accentuée ces dernières années, avec un découragement du personnel soignant qui pèse beaucoup et qui va peser dans la façon dont on va pouvoir faire face à une épidémie, à ces épidémies si elles s'avèrent intenses.
Anne-Claude Crémieux, pourquoi est-ce que nous sommes plus vulnérables aux épidémies aujourd'hui qu'hier?
Alors, on est plus vulnérables. Il y a, je dirais, 2 raisons que je développe dans mon livre. La première, elle a été démasquée par l'épidémie de SRAS en 2003. C'est la rapidité et l'intensité de la circulation des virus par voie aérienne. Ça a été assez extraordinaire. En 2003, on a découvert que le SARS-CoV le SARS, le SRAS, était capable de voyager en 3 jours aux 4 coins du monde. C'était la première fois. On n'avait jamais vu ça. Évidemment, ça s'est reproduit avec le coronavirus. En 2020, vous avez vu la rapidité avec laquelle cette épidémie localisée en Chine s'est répandue dans l'ensemble du monde. Première vulnérabilité. Deuxième vulnérabilité qui a été vraiment dévoilée cette fois-ci par le coronavirus en 2020, la population est plus fragile en partie à cause du vieillissement qui est un phénomène qui est là aussi général, touche les pays occidentaux, mais pas seulement. La Chine a affaire à une population de plus en plus âgée avec des comorbidités.
En fait, c'est les progrès de la santé, ça.
Absolument.
On vit plus vieux, on peut vivre avec des comorbidités, on serait mort il y a 30 ans, et donc on est plus fragile, plus vulnérable aux
épidémies. C'est exactement ça. En fait, les progrès de la médecine créent en même temps notre vulnérabilité aux maladies infectieuses, que ça soit ces virus respiratoires, ou d'ailleurs la résistance aux antibiotiques, qui est un autre phénomène qui s'est aggravé avec le vieillissement de la population, avec sa susceptibilité aux infections.
D'où la Chine qui est devenue le point névralgique de la diffusion des épidémies, d'après ce que vous dites, hein, avec sa forte densité de population, mais aussi grâce aux progrès que la Chine a pu faire au cours de ces 30 dernières années. Alors, qui fait qu'en Chine, aujourd'hui, on a aussi des obèses.
Alors c'est vrai que... c'est pas tant les obèses en Chine que le vieillissement de la population et les comorbidités, diabète, hypertension, problèmes cardiovasculaires. Ils n'ont pas tellement d'obèses, c'est la raison pour laquelle, au fond, il a fallu que la pandémie touche les pays occidentaux pour qu'on comprenne que des jeunes obèses se retrouvaient en réanimation. Non, pourquoi la Chine ? Parce que il y a comment naissent ces pandémies ? Ce sont des zoonoses qui viennent des animaux et ça suppose une interaction entre des virus du monde animal et l'homme, souvent par l'intermédiaire d'ailleurs d'animaux domestiques. Donc c'est la forte densité de la population au contact des animaux sauvages et domestiques. Et c'est pour ça que les marchés chinois sont à risque, parce que c'est souvent la coexistence d'animaux sauvages vendus en contrebande, d'animaux domestiques et aussi d'une énorme densité de population.
On fait une pause, on se retrouve tout de suite après, Anne-Claude Crémieux.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On a pu constater pendant la pandémie de Covid, et elle n'est pas finie, que les progrès scientifiques et technologiques que nous avons accomplis permettent des réponses d'une ampleur inédite. Hein. On peut confiner tout un pays, c'était impossible, ça aurait été impossible il y a 20 ans.
Le confinement de tout un pays, c'est que, en fait, ça c'est la première fois qu'on confine non seulement tout un pays, mais enfin pratiquement une planète. Ça n'avait jamais été envisagé dans les plans de réponse, souvent minutieusement préparés pour faire face à une pandémie grippale.
Les instruments informatiques pour ça. Il fallait le numérique, il fallait Internet, il fallait tout ça.
Alors, pas tant pour le confinement, mais je dirais pour la réponse extraordinaire et la rapidité de la réponse scientifique qu'on a opposée à cette pandémie. D'abord, rapidité d'isolement du virus. En quelques jours, il a été séquencé. Et on le voit même avec les variants, c'est extraordinaire. Un variant fait son apparition dans un coin du monde et en quelques jours, il est identifié. Et en quelques semaines, on sait si oui ou non, il va répondre au vaccin. Ce qui explique que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est capable de décortiquer l'histoire d'une pandémie. Et cette histoire d'une pandémie, ces raisons, les raisons pour lesquelles il y a des vagues, eh bien, on s'est aperçu qu'en réalité, un virus pandémique comme le coronavirus était capable de très rapidement muter à une vitesse que jamais les scientifiques n'avaient imaginé.
C'est vrai que c'est la première fois qu'on a pu le surveiller en temps réel, comme on l'a fait grâce, vous l'avez dit évidemment, au séquençage, à la vitesse à laquelle on a pu faire un vaccin grâce à l'ARN messager, la vitesse à laquelle on a pu équiper nos smartphones de QR code pour vérifier qu'on était bien vacciné. Tout ça, c'est issu de la révolution numérique. Et on a l'impression, on se dit, mais que se serait-il passé si le Covid-19 était arrivé, non pas en 2019, mais en 1989 ? Peut-être qu'on ne l'aurait même pas vu. il aurait fait des morts. Mais en tout cas, on n'aurait jamais mobilisé la planète comme on l'a fait là.
Alors vous avez raison, le progrès technologique est aussi une loupe qui permet d'identifier les menaces et probablement de nous les faire voir et de façon extrêmement précise. Du coup, ça a abaissé notre seuil de réactivité aux épidémies et aux crises sanitaires d'une façon générale, parce qu'on voit mieux le danger. L'exemple que tout le monde prend, c'est les précédentes pandémies, notamment la pandémie de Hong Kong, où finalement, ce n'est que rétrospectivement qu'on a pu s'apercevoir qu'elle avait entraîné un grand nombre de morts. Quand on ne compte pas les morts, il n'y a pas de crise sanitaire.
C'était la grippe de Hong Kong en 68-69. Hein, et effectivement, on a compté les morts. Je crois que c'est Antoine Flahau, le premier qui les a comptés d'ailleurs, mais 20 ans plus tard, il en a trouvé 2 millions.
Un autre exemple qui est très intéressant, c'est la canicule. En France, très vite, ça a entraîné une crise sanitaire. Parce que très vite, les services des urgences et aussi des pompes funèbres ont dit « attention, on a à faire face à un nombre de morts tout à fait inhabituel et on a compté les morts », alors qu'en dehors des pays adjacents, l'Italie, l'Angleterre même, on n'a pas compté les morts, il n'y a pas eu de crise sanitaire.
Mais alors Anne-Claude Crémieux, quand on lit votre livre, tout à coup, en le lisant, je me suis posé une question. Puisqu'on est devenu plus vulnérable aux épidémies et qu'a priori elles vont se multiplier, parce que quand on lit votre livre, on voit bien qu'elles vont se multiplier, elles vont donc bouleverser de plus en plus nos vies quotidiennes, ce qui n'était pas le cas autrefois de la grippe de Hong Kong ou même de la grippe espagnole, puisqu'on ne comptait pas les morts. On savait à peine ce qui se passait. Donc on va s'y préparer de mieux en mieux et comme on a sous-estimé la gravité du Covid-19, on va avoir tendance à surréagir pour ne plus être pris en défaut. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des masques obligatoires, y compris dehors dans la rue, tous les ans ?
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que l'histoire des crises, lorsqu'on étudie l'histoire des crises sanitaires, on s'aperçoit que la réaction à une crise est souvent déterminée par la crise d'avant. Alors c'est exactement ce qui s'est passé par exemple en France où on a eu la canicule et après la canicule, les ministres qui étaient de la santé et le gouvernement qui étaient quand même bouleversés par le fait de s'être fait surprendre par la canicule qui a tué en 3 jours 15 000 personnes, se sont préparés plus que les autres pays à une pandémie grippale. Comme vous le savez, il y a eu une pandémie qui était la pandémie donc H1N1 qui s'est avérée beaucoup moins grave que prévu et on a critiqué la préparation de la France. Et résultat, face au coronavirus en 2020, nous n'avions plus cette préparation, nous n'avions plus de masques et finalement, nos gouvernants n'étaient plus du tout préparés à gérer une crise sanitaire. Donc on voit bien que c'est une suite de surréactions et de sous-réactions. Mais la morale de l'histoire, et elle est vraiment fondamentale pour tous les gouvernants, c'est qu'il vaut mieux surréagir que sous-réagir. Et comme on le sait, il vaut mieux réagir plus, de façon plus large face à un danger qui est forcément inconnu et donc incalculable. Et après, restreindre les mesures dès qu'on a plus de visibilité. Mais la crise, c'est avant tout le brouillard. Et au début, effectivement, on réagit parfois de façon plus importante, ce qui entraîne beaucoup moins de morts que de sous-réagir. C'est aussi une leçon de cette crise.
Donc, il faut absolument investir dans les hôpitaux aujourd'hui.
C'est une des leçons. On s'est aperçu que finalement, le fait de ne pas avoir suffisamment de lits de réanimation, qui était le véritable goulot d'étranglement de la prise en charge des patients sévères, s'est traduit en nombre de morts. Et qu'on n'avait pas du tout anticipé le fait de pouvoir démultiplier d'avoir des réserves, en fait, à la fois en personnel de réanimation et en équipement. Et c'est quelque chose qui a été probablement plus pensé par les militaires que par les services de santé. On l'a vu, d'ailleurs, les militaires sont venus à la rescousse des civils. Et il faut certainement intégrer cette leçon dans la préparation des crises sanitaires. Ce n'est pas la seule. On a vu qu'on manquait aussi, on peut dire, de bataillons, puisque c'est le terme qui a été utilisé, pour faire du testé, tracé, isolé, c'est-à-dire essayer d'arrêter l'épidémie en attendant le vaccin.
Merci
merci à vous.
Merci Anne-Claude Trémieux. Je renvoie à la lecture de votre livre, Les citoyens ont le droit de savoir. Ça vient de paraître aux éditions Fayard. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Caroline Pigozzi. Elle va nous emmener au Vatican.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Caroline Pigozzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vaticaniste, vous êtes depuis plus de 25 ans l'envoyée spéciale de Paris Match au Vatican, vous êtes l'ami des papes, ce qui vous permet de sortir pour Noël aux très chics éditions Assouline, un livre en anglais en grand format, 40 cm de large sur 48 cm de haut, 242 pages, 200 illustrations. Ça s'intitule Vatican, a private visit to a secret world, une visite privée dans un univers secret. C'est d'un luxe inouï, il est d'ailleurs assez cher, hein. Ce qui prouve, s'il en était encore besoin, que de toutes les grandes religions monothéistes, la religion catholique est la plus spectaculaire, hein. Elle a le culte des images grandioses, elle tutoie le sublime. D'où ça lui vient, à votre avis ?
D'abord de la nuit des temps, et puis il y a beaucoup quand même des reproductions, des photos qui sont à Rome, et Rome est une ville magnifique, et en plus que Rome a... qui fait qu'il est enthousiasmant de travailler à Rome, au-delà même du Vatican, c'est une lumière extraordinaire. On se lève le matin, c'est jamais la même lumière. Et ça, moi, je dois dire que dans les moments les plus difficiles de l'écriture, quand je suis à Rome, la seule consolation, quand je suis là, je suis très démodé, donc j'écris avec une gomme et un crayon, c'est de voir cette lumière magnifique. Et je pense qu'elle a inspiré beaucoup d'artistes et qu'elle continue de les inspirer et qu'elle nous donne aussi des occasions de parler de cette ville sur le plan religieux de façon incroyable. J'en profite pour dire que ce livre est écrit avec Gian Maria Vian, qui est lui aussi qui est un historien, qui était directeur de l'Osservatore Romano, qui est un professeur d'université lumineux. Voilà. C'est plus amusant d'écrire à deux parce qu'on est plus intelligent à deux que tout seul. On ne voit pas les mêmes choses sur une photo.
Mais revenons sur le Vatican, qui n'est qu'une enclave, hein, à l'intérieur de Rome. C'est quoi le Vatican pour vous, Caroline Pigozzi ? Autrefois, c'était les États du pape. Et aujourd'hui, depuis 1929, avec les accords du Latran, c'est le plus petit État du monde. Mais en même temps, c'est beaucoup plus que ça, en réalité.
Ben, c'est un État à la fois d'émerveillement quand on y entre, parce que l'autre jour, par exemple, je suis allée dans Saint-Pierre de Rome parce qu'il y avait une messe du pape et je voulais vérifier l'état de santé du pape avant le voyage qu'on a fait avec lui à Bahreïn. Donc je me dis, il n'y a qu'une messe, je pourrais voir s'il a du souffle. Et je suis entrée dans cette basilique et j'y suis allée un nombre de fois incalculable et on est toujours émerveillé et on rebondit toujours dans la joie en pensant à l'histoire et c'est formidable, je crois que c'est la plus belle chose qui soit.
Et comment va-t-il, le pape ?
Il va mieux qu'on le dit, parce qu'il a une force de caractère incroyable, qu'il ne s'écoute pas beaucoup. C'est vrai qu'il ne marche pas bien, on ne va pas raconter l'histoire, mais son cerveau marche, ce qui me semble-t-il le principal.
Ce qu'il n'y a pas dans votre livre, c'est le silence. Or, véritablement, ce qui frappe au Vatican quand on y entre, c'est le silence, non ?
Oui, c'est le silence, mais en fait, c'est pas vraiment le silence, c'est que les gens chuchotent. Tout le monde parle, mais très doucement, parce qu'ils ont peur de se faire entendre. Et il y a une chose qui, moi, m'amuse, qui m'a amusée récemment, j'ai dû photographier des religieuses pour notre journal, et j'avais toujours un grand sac que j'ai là, donc j'ai l'air de transporter ma maison sur le dos. Et la religieuse m'a regardée avec un petit sourire et elle m'a dit « Vous auriez pas un peu de maquillage ? Parce que j'ai le visage un peu comme pâle. » Je lui ai dit « Oui, c'est vrai, vous êtes blanche comme une hostie, si je peux me permettre. Je vais passer un peu de maquillage. » Elle était enchantée parce que le problème au Vatican, c'est pas tant le silence, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle, une seule voix, c'est le pape. Et il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de dicaster, de ministre de l'Église qui parle, il y a le pape dont la voix résonne dans le monde entier. Il y a 192 États représentés au Vatican et personne d'autre ne parle, en tout cas officiellement.
Ce qui frappe tout de suite quand on ouvre ce très gros livre, c'est la beauté, hein, la beauté du Vatican, une beauté que rien ne vient défigurer. Tout est luxe, calme et volupté. Les matériaux sont magnifiques. Et même une erreur d'architecture comme celle qui a présidé à la construction de la basilique Saint-Pierre, ça devient sublime.
Mais vous savez, il n'y a aucune erreur de mauvais goût. C'est ça qui est assez impressionnant, même quand on les cherche, même quand on les traque avec un esprit très journalistique comme nous sommes, côté un peu Sherlock Holmes, il n'y en a pas. C'est ça qui est absolument extraordinaire.
Les vêtements sont divins, les calices sont incrustés de diamants, les tableaux sont forcément des tableaux de maître. Tout est parfait.
Tout est parfait. Ça donne envie d'écrire un roman policier sur le Vatican aussi. Vous voyez, chercher la faille.
La superficie, c'est seulement 0,44 km², mais qu'est-ce qu'il y a en dessous ?
Il y a les tombes des papes. Et ça, j'y suis allé encore il y a un mois. Je trouve ça un peu étouffant. Alors ça, je dois dire que là-dessus, je n'ai pas de grande capacité d'émerveillement. Quand on descend très bas, à l'étage entre les deux, il y a les tombes de Jean-Paul II, il y a les tombes de quelques papes. Ça, c'est plus émouvant. Mais je trouve ça assez étouffant. C'est ouais. Le seul point où je ne partage pas tellement.
Il y a le tombeau de Saint-Pierre. Il est là.
Oui, oui, bien sûr. Il y a un bout du tombeau de Saint-Pierre, en voilà. Effet.
Et bon, c'est donc ce qui frappe aussi au Vatican, c'est la longévité.
La longévité. Et puis, vous savez, il y a... Comme finalement, on prend très peu de décisions, il n'y a personne aussi pour prendre des décisions de mauvais goût. C'est important parce qu'il n'y a pas tout à coup un ministre de la Culture. Il y a un ministre de la Culture, il y a un dicastère de la Culture. Mais il n'y a pas tout à coup quelqu'un qui dit... Parce que comme il y a des commissions, une fameuse commission surtout, donc il y a tellement de gens qui décident finalement, on ne décide pas grand-chose. On en revient au pape et les papes imprégnés des lieux au bon goût, ou n'ose pas avoir mauvais goût. On ne voit pas tout à coup un pape qui peindrait une coupole en verre pistache. Enfin, vous voyez, on est préservé de toutes ces choses-là.
Mais on est préservé de la mode aussi. On s'habille au Vatican, en tout cas, c'est la pression qu'on en a, y compris quand on feuillette votre livre, on s'habille comme on s'habillait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans.
C'est-à-dire que, par exemple, pour une journaliste, si j'allais en jaune, citron et blanc, les couleurs du drapeau du Vatican, je crois que je resterais 5 minutes, parce qu'il faut être gris-souris, donc il faut toujours être en noir, passer inaperçu, baisser la tête et chuchoter. C'est quand même ça la règle. L'excentricité n'est pas de mise au Vatican. Ça, c'est pas prévu. Sauf dans les films.
On va en parler des films parce que vous en parlez vous aussi. On fait une pause. Caroline Pigozzi, on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Caroline Pigozzi qui publie aux éditions Assouline un gros et beau livre intitulé « Vatican, a private visit to a secret world », en français « Vatican, une visite privée dans un univers secret ». Un livre magnifique avec beaucoup d'illustrations. Le Vatican que vous connaissez si bien, Caroline Pigozzi, je rappelle que vous êtes depuis plus de 25 ans l'envoyée spéciale de Paris Match là-bas. On a l'impression que le monde entier s'y est donné rendez-vous. C'est vrai ou c'est encore italien comme ça a été pendant des siècles ?
Non, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un chef d'État sur Terre, un roi, une reine qui n'a pas envie d'avoir sa photo avec le pape. Je ne dirais plus sur le piano parce qu'il n'y a plus tellement de piano, mais en tout cas sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc le monde entier défile au Vatican, ça c'est une réalité. Il y a comme une espèce d'attirance incroyable. Et puis les gens entrent et sont absolument fascinés, même s'ils savent tout, même s'ils ont tout lu, même s'ils connaissent, même s'ils sont extrêmement cultivés. Il y a un effet d'émerveillement, j'oserais dire de sidération. Et donc, oui, le monde entier, ça fait partie de la panoplie de la personne qui a réussi, quel que soit le niveau, il faut passer par le Vatican.
Mais ceux et celles qui travaillent, eux aussi, elles aussi viennent du monde entier.
Il y a une majorité d'Italiens quand même. Parce
toujours.
Que c'est la langue. Oui, alors à l'époque de Jean-Paul II, il y avait une polénitude qu'il a installée. Il y avait beaucoup de Polonais, mais ça, c'était le côté secret. Comme ça, il se racontait des histoires que personne ne comprenait. Mais j'oserais dire qu'il y a une majorité d'Italiens. Maintenant, à l'intérieur du Vatican, il y a quand même beaucoup de Latinos. Parce que le pape a confiance en des gens de chez lui.
Il est argentin.
Il est argentin, donc il a plutôt confiance. Enfin, il y a quand même, enfin, tout le personnel et l'encadrement administratif, j'oserais dire, est italien quand même.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ?
Ah non, il n'y a pratiquement pas de femmes. Il y a quelques religieuses et encore très peu. Non, c'est un univers où il n'y a pas de femmes.
C'est un univers masculin, hein, le
c'est
Vatican.
Un univers masculin. Un jour, il m'est arrivé une chose horrible. Il y avait un cardinal français qui était ministre des Affaires étrangères du pape, le cardinal Torrent, qui après ça était le bibliothécaire du Vatican. Il m'avait donné rendez-vous pour faire un sujet sur la bibliothèque du Vatican, qui est une chose magnifique. Et ma jupe noire s'est déchirée juste avant d'arriver. J'étais mais catastrophée. Et donc, je cherchais désespérément une femme qui puisse me prêter une jupe, qui puisse même bleu marine. J'ai absolument jamais trouvé. Donc j'ai dû retourner à l'hôtel, acheter à l'hôtel la jupe de la femme de chambre qui était en noir et revenir parce que j'ai jamais osé arriver dans une autre tenue. Je me suis dit, il y a un reportage à faire, je vais pas y arriver. Je me faisais engueuler par le photographe. Et il y a très peu de femmes, mais celles qui sont là, sont, même s'ils ne sont pas des religieuses, elles sont habillées en noir, elles se fondent absolument dans le paysage. Et ce qui est assez amusant maintenant, c'est qu'avec ce pape qui a fait limiter le personnel, parce que vous savez, c'est un pape très simple, il y avait des chauffeurs, les cardinaux avaient des chauffeurs. Maintenant, il y a quelques cardinaux qui ont des chauffeuses, des bonnes sœurs. Et alors, elles sont tellement impressionnées de conduire à l'intérieur du Vatican qu'elles donnent des grands coups de volant. Elles sont extrêmement dangereuses dès qu'elles voient un haut prélat. Elles donnent, je vous dis, un grand coup de volant. Il faut se garer tout de suite.
Dans cette visite privée du Vatican que vous nous permettez de faire dans ce livre, vous nous montrez mais un tout petit peu des archives du Vatican, les fameuses archives. Ça représente quoi, les archives du Vatican? Et c'est entreposé où?
C'est pas très loin de Saint-Pierre, mais on ne vous montre même pas ça comme des dessins porno. C'est très compliqué de les voir. Vous voyez, il faut des autorisations, et puis on se méfie, et puis il faut être professeur d'université. Enfin, il faut une traçabilité. Voilà, vous en n'entrez pas de toute façon au Vatican, quel que soit le sujet, sans traçabilité. Moi, quand j'ai fait le premier livre avec Gianmaria Vianna, avec qui j'ai fait celui-là, j'allais écrire le soir à l'Osservatore Romano, parce qu'il dirigeait à l'époque l'Osservatore Romano. Et un jour, j'avais oublié mon badge pour entrer. Le garde suisse assez sévère qui était là, et la gendarmerie me disent « Mais comment, vous n'avez pas votre badge ?» Je dis « Non, mais je viens tous les jours, vous pouvez vérifier, je peux vous donner tous mes papiers, j'ai mon passeport, etc. » Et il vérifie, il me dit, il regarde et il me dit « Oui, vous êtes déjà venu 32 heures depuis quelques jours, j'espère qu'au moins votre livre avance. » C'est-à-dire qu'on est complètement contrôlé. Vous voyez, ils ont tapé sur l'ordinateur.
Et dans les archives, je crois qu'ils racontent la vie des papes depuis pratiquement l'origine des temps.
Oui, depuis l'origine des temps. Il y a des archives extraordinaires. Il y a aussi le divorce de Henri VIII. Enfin, il y a des archives fantastiques qui ont été numérisées en partie, d'ailleurs. Et là aussi, les chercheurs viennent les voir. Enfin, c'est très intéressant.
Dernière question, Caroline Pigozzi. Il y a parmi les 200 photos, les 200 illustrations de ce livre, très très belles toutes, il y a la photo d'une famille italienne avec beaucoup d'enfants en train de prier à genoux, les mains jointes, sur la place Saint-Pierre pour le pape Jean XXIII. Oui. Je suis allé souvent à Rome comme vous, je suis allé souvent devant la basilique Saint-Pierre. J'ai l'impression qu'on ne voit plus les gens prier à genoux. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de disparaître. À genoux, les mains jointes, ça ne se fait
Écoutez,
plus.
Moi j'étais l'autre jour justement dans Saint-Pierre parce que je voulais vérifier avant le voyage, donc comme à match, enfin encore du terrain, c'est la joie de ce journal. Je suis allé dans Saint-Pierre et les gens dans Saint-Pierre étaient à genoux. Alors sur la place Saint-Pierre, maintenant c'est impossible parce qu'il y a de toute façon la gendarme, il y a la police italienne. C'est la police italienne qui depuis 1929 gère la place Saint-Pierre et c'est circulé, il n'y a rien à voir. Enfin pour les questions de sécurité, vous ne pouvez pas vous mettre au milieu de la place Saint-Pierre à genoux, sauf dans l'enclave qui est fermée. Mais dans Saint-Pierre, il y a encore beaucoup de gens à genoux et on voit encore des familles avec plein d'enfants. Et moi qui suis une amoureuse des animaux et des chiens, l'autre jour, j'allais entrer dans Saint-Pierre, il y avait un monsieur qui était avec un chien, un vieux chien qu'il avait dans les bras. Il m'a dit « Vous croyez que je peux entrer avec vous ?» J'ai dit « Oui, je vais le cacher, mais il faut que votre chien soit bien élevé et qu'il n'aboie pas. » Parce qu'autrement, on serait fait repérer tous les trois, le chien, le vieux monsieur et moi. Donc, on peut même quelquefois entrer avec son chien. Mais il faut être malin.
Vatican, a private visit to a secret world. Vatican, une visite privée dans un univers secret. Ça vient de paraître aux éditions Assouline. Merci Caroline Pigozzi.
Merci à vous.
On fait une pause, on se retrouve juste après avec Marie Calter.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Marie Calter.
Bonjour.
Vous publiez La Juive de Shanghai chez XO Éditions, un roman sur une jeune juive allemande qui fuit Berlin après la nuit de cristal. Il y a plein de péripéties qu'on ne va pas raconter. Je préfère en arriver tout de suite au chapitre peu connu de l'histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale que vous racontez dans ce livre. C'est celui du ghetto de Shanghai. Même les Juifs le connaissent mal. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un chapitre peu connu. Imaginons une seconde. Moi, je suis né dans le ghetto de Varsovie. Mais en Europe centrale, il y avait 5 à 6 millions de Juifs, plus 5 millions de Juifs en Ukraine et en Russie. 11 millions qui parlait ma langue maternelle, le yiddish, une langue que personne ne parle aujourd'hui. Et puis les Allemands avancent et ils ont un objectif, c'est écrit dans Mein Kampf, d'exterminer les Juifs. Et les Juifs ne savent pas où aller. Toutes les frontières sont fermées. Et d'un seul coup, on apprend qu'il y a une seule ville au monde qui est prête de les accueillir, Shanghai. Sauf qu'ils ne savent pas où ça se trouve. La Chine, ils ne savent pas. Ce sont des gens qui sont coupés du monde, dans leur petit village, dans leur langue, dans leur tradition. Et puis, quelques-uns savent quand même. Hein, ils ont appris, un peu plus cultivés. Alors, ceux qui ont un peu d'argent, ils peuvent prendre un bateau d'Hambourg, de Marseille ou de Gênes. Ça coûte très cher. Et ceux, la plupart d'entre eux qui sont pauvres, ben c'est un peu comme Michel Strogoff, hein, ils pensent traverser la Russie. Sauf que les Russes ne les laissent pas entrer. Et là, j'ai découvert un personnage inuit, un consul général du Japon, Sugihara, qui, en voyant ces Juifs en plein désarroi, décide de son propre chef de leur donner des visas pour le Japon, ce qui leur permettrait de traverser la Russie. Il en donne 6200. Ça veut dire qu'il sauve à lui seul deux fois plus de Juifs que Schindler, devenu connu grâce à Spielberg. Ces gens traversent la Russie, mais ce n'est pas simple de traverser la Russie. Ils ne connaissent pas la langue, c'est dans les wagons de marchandises, les trains s'arrêtent en pleine campagne pour permettre aux gens de se soulager, et puis ils réparent, et les gens restent avec leurs pantalons entre les mains. C'est drôle et terrible en même temps, parce qu'après, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et ils arrivent à Kobe, au Japon, et les Japonais viennent de signer un pacte avec Hitler et Mussolini. Et ils voient arriver ces Juifs. Et les Allemands disent, il faut les exterminer. Et là, j'ai appris encore une chose, que pour les Japonais, ils ne savent pas ce que c'est les Juifs. Il y a les Japonais et les autres. Musulmans, chrétiens, noirs, pas. Ce n'est pas leur problème.
Il faut juste, je vous interromps, il faut juste rappeler qu'à ce moment-là, Shanghai est occupé par les Japonais.
Exactement.
Hein, bien entendu, depuis 1937. Donc en fait, les réfugiés chinois, étrangers, s'entassent dans Shanghai dans des conditions difficiles. Il y a des chômeurs, des paysans, des ouvriers. Il y a les ressortissants des concessions internationales. Il y a des Français, des Américains, des Anglais.
Il y a des concessions françaises.
Voilà. Et puis, il y a les Juifs qui arrivent par milliers, fuyant l'Europe, des hommes, des femmes, des enfants. Et je vous laisse continuer à ce moment-là.
Mon héroïne, qui est en vérité ma tante, qui est une couturière, qui pensait devenir un peu la Schiaparelli polonaise ou allemande, bon, se retrouve dans un quartier qu'on appelle les ghettos de Shanghai. 52 000 Juifs qui reproduisent aussitôt leur vie. C'est-à-dire les écoles, les synagogues, etc. Et puis, la vie continue. Il y a les Chinois. On tombe amoureuse d'un Chinois.
Il n'y a pas d'antisémitisme chinois.
Non, non, ils ne connaissent pas ça. C'est vrai qu'autour des Mao, il y a plein de Juifs, ce qu'on ne sait pas. Il y a des Juifs idéalistes, communistes, ils ont raté la révolution en Allemagne, la révolution en Russie, Staline, les Goulags. Ils se disent, on va peut-être réussir avec Mao. Ils apprennent le mandarin et ils donnent des conseils à Mao. Et c'est eux qui en vendent la longue marche. Pourquoi ?
Vous êtes sûr de ça, Margaret ?
Oui.
Parce que j'en connais. Il y a le cas Israël Epstein qui a émigré en Chine quand il était encore enfant, qui a été naturalisé chinois en
1957. Oui, il y a Jacob Rosenfeld qui est devenu général Lo. Il y a des monuments à sa gloire. Et c'est lui qui dit à Mao, on prend 50 000 Chinois, chacun va avoir un drapeau rouge, un petit peu comme chez Shakespeare, la forêt se met en marche, hein, chez Richard III, je crois, et ils vont se mettre en marche, et au bout, on sera des millions. Et Mao, il dit, comment tu sais ? Il amène une Bible traduite en chinois, il dit, regarde, Moïse et Aaron, ils étaient deux pour entrer en Égypte, ils sont sortis C'était un peuple.
Mais c'est un peu l'inverse qui s'est passé avec la Longue Marche, puisqu'ils étaient beaucoup plus nombreux au départ. Ils fuyaient devant l'armée de Chiang Kai-shek. Oui. Ça a pris un an.
Mais après, quand même, ils étaient des millions.
Ils étaient peu de survivants à l'arrivée le Jiangxi, comme on dit, enfin, même si je ne le prononce pas. Revenons à Shanghai et à ce ghetto. Il y avait une communauté juive importante, hein, vous le racontez, depuis la fin du 19e siècle, dans les concessions étrangères. Victor Sassoon, par exemple, qui est un des personnage de votre roman, il a existé.
Il a existé parce qu'on ne sait pas, sauf ceux qui connaissent les films d'Hollywood des années 30, et sur la guerre d'opium au Shanghai. Il y avait un film, je me souviens, avec Claire Gable. Et pendant cette guerre d'opium, c'était important l'opium, parce qu'il n'y avait pas d'antidouleur, antiseptique dans les hôpitaux, et l'opium a remplacé tout ça. C'est-à-dire, il calmait la douleur. Et dans cette guerre, il y avait trois grandes familles juives de Bagdad, originaires de Bagdad. Ils ont fait beaucoup d'argent. Et là, une chose dont j'étais touché, et ça m'a rappelé une phrase de Charles Aznavour, m'a dit un jour, nous avons, les Arméniens et les Juifs, quelque chose en commun. On était massacrés à travers les siècles, etc. Et ça a créé chez nous une solidarité toute particulière. La différence, c'est qu'un Arménien devient riche, il construit une église. Quand un Juif devient riche, il construit une école. Et c'est vrai que ce Sassoon a construit des écoles pour tous les orphelins. Aucun petit orphelin n'était dans la rue, il était à l'école. Et c'est grâce à ce Sassoon qui est mon héroïne Ruth, qui tient un journal d'ailleurs, qui subsiste, dont les traces sont encore là.
Un journal intime.
Là, et elle retrouve sa copine allemande. Et j'ai découvert là aussi l'amitié entre les femmes. L'amitié entre les femmes, ce n'est pas la même chose que l'amitié entre les hommes. Les hommes, ils ont sur des rapports virils. On se tape sur la cuisse, sur l'épaule. On l'embrasse, on l'entraîne. Tandis qu'il y a une femme, il y a une tendresse. Quand elles ont des problèmes, elles s'enlacent, elles pleurent ensemble. Il y a quelque chose de très, très touchant qui se passe entre ces deux femmes qui ne peuvent pas se passer. Chacune a des amants, a des amours, mais elles ne peuvent pas se passer une sans l'autre.
Alors la caractéristique de ce ghetto de Shanghai par rapport au ghetto de Varsovie ou d'autres ghettos en Europe, c'est qu'il n'était pas clos hein, sur lui-même. Les Juifs n'y étaient pas enfermés.
Ils n'étaient pas condamnés à mort.
Voilà, en plus. Et que donc, il y avait du passage, il y avait des liens avec les Chinois. Et au fond, ils ont les mêmes ennemis à l'époque, les Chinois et les Juifs. C'est le pacte, ce qu'on appelait le pacte d'acier entre les Allemands et les Japonais.
Tout à fait, puisque les Japonais, vous avez dit d'ailleurs, avec raison, cette partie de la Chine est occupée par les Japonais. Et j'ai mis en exergue de mon livre un proverbe yiddish qui est touchant, qui est bouleversant. L'homme fait des projets et Dieu rigole. Or, la première bombe américaine après Pearl Harbor, contre les forces japonaises, tombe sur les ghettos de Shanghai. Extraordinaire.
Mais par hasard, enfin, c'est un accident.
Non, ben ça, c'est le hasard, c'est le destin, comme on dit.
La Juive de Shanghai, c'est donc le nouveau roman de Marek Alter qui vient de paraître aux éditions XO. Merci, Marek.
Merci mille fois.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour cher Frédéric.
Qui est votre invité ?
Notre invité, c'est le président de Debout la France et le député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan. Pour l'interroger, je serai accompagné de Stéphane Dupont et Mathieu Boccoté.
Eh bien, bonne émission.
Europe 1.